Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour cette conférence de presse audio de présentation des résultats semestriels 2025, du premier semestre 2025 pour le groupe AXA. Au cours de cette conférence de presse, Frédéric de Courtois, directeur général du groupe, directeur général du groupe, Frédéric de Courtois, directeur général adjoint, et Alban de Maillel, directeur financier, présenteront les grands enseignements de ce semestre. Et ensuite, nous aurons en plus dans la salle Ulrike de Cohen, directrice de la communication de la marque et du développement durable, Patrick Cohen, directeur général en charge des marchés Europe et Santé du groupe, et Guillaume Bourry, directeur général d'AXA France, qui pourront répondre à vos questions. Et maintenant, je passe la parole à Thomas Buper.
Merci Ziad, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence de presse des résultats semestriels 2025 du groupe AXA. Je vais en introduction vous donner les principaux enseignements que je retiens de ce très bon premier semestre. Ensuite, je laisserai la parole à Frédéric de Courtois et à Alban de Maillel pour aller dans les détails sur notre activité et nos principaux indicateurs financiers. Après, bien évidemment, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Si on se plonge sur le premier transparent, tout d'abord, AXA réalise une excellente performance ce semestre, en ligne avec les objectifs de notre plan Unlock the Future. Sur ce semestre, comme sur l'année 2024, nous démontrons notre capacité à générer de la croissance organique, très important, et à renforcer notre excellence technique et opérationnelle, deux piliers centraux de notre plan. Dans un contexte de plus en plus incertain et difficile, nous devons ce très bon résultat à l'engagement et au professionnalisme de nos plus de 150 000 collaborateurs et agents, et j'aimerais leur remercier chaleureusement. Je vais maintenant rentrer dans le détail des principaux indicateurs. Notre chiffre d'affaires augmente de 7%, en forte croissance sur ce semestre. Il dépasse les 64 milliards d'euros. Cette croissance organique a été générée par, d'un côté, l'ensemble de nos lignes de métier, l'assurance dommage, l'épargne et la santé, ainsi aussi dans toutes nos géographies. Ce résultat démontre bien, une fois encore, la pertinence de notre stratégie, la force de notre modèle qui est bien équilibré et diversifié, et certainement la qualité de nos réseaux de distribution. Notre résultat opérationnel atteint également un très bon niveau. Il augmente de 6% et atteint 4,5 milliards d'euros. Tout ça, c'est le fruit d'un côté d'une bonne discipline technique et opérationnelle, mais de l'autre côté aussi de nos initiatives dans la data et l'intelligence artificielle, ainsi que dans le développement de nos réseaux de distribution. Notre résultat opérationnel par action augmente également de 8%. Il se situait dans le haut de la fourchette ciblée de notre objectif du plan, qui est entre 6 et 8% au moyenne par an. Enfin, notre bilan est très solide, avec notamment un ratio de solvabilité 2 qui se maintient à un niveau très élevé, à 220%, en hausse de 4 points par rapport à 2024. AXA est ainsi très bien positionné pour atteindre les objectifs de son plan Unlock the Future. Nous sommes aujourd'hui au milieu de ce plan de 3 ans. Je vais maintenant vous présenter le détail de cette performance par ligne de métier. Comme je vous le disais, notre chiffre d'affaires croît de façon continue et nous retrouvons cette dynamique dans toutes nos lignes de métier. En dommages, le chiffre d'affaires atteint 34,1 milliards d'euros en hausse de 6%. Cette croissance est portée à la fois par l'assurance des entreprises qui croît de 5% et l'assurance des particuliers en hausse de 7%. En vie et santé, notre deuxième grande ligne de métier, Notre chiffre d'affaires atteint les 29,2 milliards d'euros en hausse de 8%. Sur le segment vie, nous dégageons une hausse de 9% pour atteindre 19,1 milliards d'euros. Cette hausse est portée par la prévoyance et par les produits en unité de compte. Sur le segment santé, les primes ont augmenté de 6% pour atteindre 10,1 milliards d'euros, avec une croissance dans la plupart de nos géographies, tant dans l'assurance collective que particulier. Je vais maintenant aussi vous donner plus de détails sur l'acquisition à hauteur de 51% de Prima, un assureur italien que nous avons annoncé ce matin. Comme vous l'avez vu, nous avons annoncé cette acquisition de Prima, leader du direct en Italie, pour un montant de 500 millions d'euros. Cette acquisition va renforcer notre part de marché dans le secteur de l'assurance automobile italien, en la doublant presque de taille. Cette opération va nous permettre de renforcer notre présence sur ce marché important qui est pour nous très stratégique en Europe. L'année dernière, nous avons déjà annoncé et fait une acquisition d'une entreprise qui s'appelle Nobis. Cette nouvelle acquisition de Prima nous permet de poursuivre dans cette même dynamique. En effet, Prima affichait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2024, en croissance depuis plusieurs années. Enfin, elle renforce notre présence sur le métier de l'assurance directe, canal de distribution dans lequel nous sommes déjà leaders dans certains pays comme la France avec Direct Assurance. Je vais désormais vous donner plus de précisions sur le segment de l'assurance directe. L'assurance directe répond aux attentes d'un segment de clients importants. Nous le vérifions dans plusieurs de nos marchés où nous développons ce type d'activité avec succès. Pour AXA, l'assurance directe représente déjà un chiffre d'affaires important de 3,5 milliards d'euros dans 8 pays. Nous sommes dans les top 3 en France, en Belgique, en Espagne et en Irlande. Avec l'acquisition de Prima, ça sera désormais 4,7 milliards d'euros. En résumé, tout en continuant à développer nos réseaux de distribution traditionnels, nous voyons l'assurance directe comme un levier de croissance important que nous allons poursuivre dans les prochaines années. Je vais désormais vous résumer nos principaux objectifs financiers. Ce transparent, vous le connaissez très bien déjà, c'est le résumé de nos indicateurs financiers clés de notre plan stratégique Unlock the Future. Au regard de ces résultats, nous estimons être très bien positionnés pour l'année 2025 et pour l'atteinte de nos objectifs du plan. Pour ce premier semestre, nous pouvons retenir les choses suivantes. 1. AXA réalise une excellente performance dans la continuité de ce que nous avons réalisé en 2024, notre première année de notre plan stratégique Unlock the Future. 2. Nous affichons un niveau de rentabilité très satisfaisant avec un résultat opérationnel en hausse de 6%. 3. La cession d'AXA Investment Managers et l'acquisition de Prima confirment notre volonté de continuer à nous recentrer et à investir sur notre cœur de métier, l'assurance. Et 4e point, notre ratio de solvabilité 2 est à 220%. Ça reflète un très bon niveau de solidité financière. Je passe maintenant la parole à Frédéric de Courtois, qui va nous présenter plus en détail la très bonne performance de nos métiers. Frédéric.
Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai sur le premier slide par dire que ces résultats semestriels sont la preuve que nous avons un modèle qui marche. Alors quel est notre modèle? Thomas l'a rappelé, notre modèle c'est l'assurance, rien que l'assurance et toute l'assurance. depuis la vente d'AXA-IM au 1er juillet, finalisée le 1er juillet. Vous savez que ce sera un partenariat important pour nous avec BNP. Mais nous voulons vraiment nous focaliser sur l'assurance. Si vous regardez ce graphe, vous voyez que nous avons un modèle qui est d'abord équilibré, donc avec à peu près la moitié d'assurance dommage et la moitié d'assurance vie et santé. Vous ne le voyez pas ici, mais on vous avait dit que nous avons moitié de B2C, donc de business to consumer, retail, et moitié de B2B, donc business to business, entreprise. Nous avons un modèle qui est diversifié au plan géographique, et vous le voyez ici, avec des positions très fortes dans nos pays. Et nous voulons être focalisés sur les géographies où nous avons la taille critique. Donc équilibré, diversifié et focalisé, et un modèle qui marche. Si maintenant je vais dans les autres slides et sur les lignes de business principales, je commence par l'assurance dommage. Donc vous voyez que l'assurance dommage, qui représente la moitié de nos revenus, a cru de 6%. Quelles sont nos priorités sur ce business? D'abord, nous avons une forte priorité de développement sur le marché des ETI, des entreprises à taille intermédiaire et des PME. C'est un axe de développement fort. Chez AXA XL, discipline et focus sur la fidélisation de nos clients. Ça, c'est pour l'assurance entreprise, donc nos deux priorités pour l'assurance entreprise. Si vous voyez la réassurance en assez forte croissance de 11%, c'est une croissance qui est soutenue par des business en lien avec nos cessions à des capitaux alternatifs. En d'autres mots, en termes de prime nette et d'exposition, ça n'a pas changé, mais nous avons l'opportunité de souscrire des business et de les céder à des capitaux alternatifs, ce que nous avons fait. Et enfin, en assurance de particulier, en assez forte croissance de 7%, bonne croissance et bonne croissance du nombre de contrats et du nombre de clients, ce dont nous sommes satisfaits, et également un environnement tarifaire favorable globalement en assurance de particulier. Si je vais sur la droite de la page, le résultat opérationnel, donc vous voyez que le résultat opérationnel en assurance dommage est en forte croissance de 7%, notamment du fait d'une amélioration ultérieure des marges techniques, et également d'une augmentation des revenus d'investissement due à la hausse des taux, qui est évidemment favorable pour nous. Si je passe sur la page suivante avec le ratio combiné, qui est notre indicateur principal, notre indicateur de performance principal en assurance dommage, vous voyez que notre ratio combiné d'abord est à un très bon niveau, il est en légère amélioration par rapport à l'année dernière, donc à 90%. Une amélioration des marges techniques qui est liée à ce que j'ai dit auparavant. Des marges techniques en entreprise qui demeurent à un niveau élevé. Une expérience en catastrophe naturelle au premier semestre qui est inférieure à notre charge normalisée. Vous savez que notre charge normalisée, c'est 4,5% des primes. Et on était à 3,5% au premier semestre. Et qui est stable par rapport à 2024. Enfin, amélioration de la productivité, vous le voyez avec l'amélioration de l'expense ratio, qui est un sujet important pour nous et qui est lié à nos investissements dans les initiatives de croissance et dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, dont nous pensons que ça aura un impact fort sur la productivité en assurance. Si je passe maintenant sur la page d'après à l'assurance vie et santé, vous savez que l'assurance vie et santé sont également deux métiers stratégiques pour nous. Nous relançons l'assurance vie, si je puis dire, qu'on n'avait évidemment jamais abandonné, mais qui est toujours plus une priorité pour nous. Donc croissance satisfaisante et même très satisfaisante au premier semestre, croissance des primes de 9%, bonne croissance également en France, et croissance dans tous nos métiers prioritaires, et notre stratégie n'a pas changé, c'est que nous focalisons sur la prévoyance, sur les unités de compte, et sur les fonds généraux à faible consommation de capital, et sur tous ces métiers, nous avons une forte croissance. En assurance santé, qui, comme j'ai dit, est également un métier stratégique, qui est fondamentalement un domaine en croissance en Europe et en Asie, donc bonne croissance à la fois en assurance santé des particuliers de 7%, en assurance collective, en assurance du groupe, ce qu'on appelle l'employé bénéfice en anglais, et donc à la fois en vie et en santé, une bonne dynamique commerciale, un bon momentum. Le dernier indicateur important, c'est la collecte nette, c'est essentiellement en épargne, vous savez que ce sont les primes moins les sorties, et vous voyez également qu'il y a une accélération en termes de collecte nette, ce qui est conforme à nos objectifs et à notre ambition. Sur la page suivante, vous voyez le résultat en assurance vie et santé qui augmente de façon satisfaisante à un rythme de 5%, essentiellement du fait d'une amélioration des résultats techniques en santé, un peu partout, mais essentiellement en Angleterre. Vous savez qu'on avait connu des difficultés liées aux difficultés du NHS en Angleterre, et nous sommes tout à fait en phase avec notre plan de marche sur ce sujet. Les résultats financiers augmentent également du fait de la hausse des taux. Et enfin, une hausse des impôts qui est liée à la fois à l'augmentation du résultat et à un impact exceptionnel lié à la hausse de l'impôt sur les sociétés au Japon. Donc, nous sommes en phase avec notre plan de marche en assurance vie et santé. Conclusion, au-delà de ces très bons résultats, quelles sont nos priorités à l'heure actuelle? Quelles sont nos priorités dans les prochains mois? La première priorité, c'est de dynamiser notre activité vie et santé. Focus plus important, nouveaux produits, focus sur un certain nombre de nouveaux réseaux. On voit que ça commence à marcher au cours de ce premier semestre et nous en sommes satisfaits. Deuxième priorité, transformer nos compétences et investissements dans tous les métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle. Nous sommes absolument convaincus que ceci a et aura un impact fort sur notre métier et ce sera un impact positif. Donc, forts investissements sur ce sujet. Troisième priorité du moment, l'extension de nos réseaux de distribution d'abord, et on l'avait dit lorsqu'on avait présenté notre plan, donc toujours plus d'agents, toujours plus de commerciaux salariés, et nous le faisons, et notamment en France, et diversification de notre distribution, et c'est en ça que l'acquisition de Prima est importante. Historiquement, nous avons toujours eu une bonne assise en assurance directe dans un certain nombre de pays. L'acquisition de Prima, qui est une success story en Italie, est très intéressante pour nous et renforce ce canal et renforce notre focus sur ce canal de distribution directe. Quatrième sujet pour nous qui est, je l'ai dit, en entreprise, le développement de notre activité sur les segments des ETI et des PME. On a toujours eu des très fortes positions dans un certain nombre d'Europe sur ce sujet. Et nous investissons pour développer ces positions dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Et nous sommes absolument en phase avec notre plan de marche, y compris aux États-Unis. Et dernière priorité que je citerai, qui est le renforcement de la fidélité de nos clients, de la rétention de nos clients. C'est évidemment un sujet important, ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet important en assurance. Et nous nous focalisons et nous investissons toujours plus pour renforcer cette fidélité de nos clients. Donc voilà ce que je peux vous dire. Très bon résultat, une acquisition de Prima dans laquelle nous croyons beaucoup. Et je passe la parole à Alban de Mahinel.
Merci Frédéric et bonjour à tous. Donc sur la slide 18, vous verrez donc ici les différents chiffres que Frédéric a pu déjà développer. Donc ça reprend nos différentes lignes de métier. En dommages, nous croissons donc de 7%. En vie et santé, de 5%. Nous n'avons pas évoqué encore la gestion d'actifs. Et vous savez que c'est le dernier semestre de consolidation d'AXA IM, puisque nous avons donc finalisé la vente le 1er juillet. Les résultats d'AXA IM sont en baisse de 14% sur le premier semestre par rapport à l'an dernier, simplement parce que AXA IM investit dans sa croissance future et donc a vu ses coûts un peu augmenter. Et le dernier segment, c'est la holding qui reste stable à moins 0,6 milliards, et comme nous l'avions indiqué précédemment. Donc au global, notre résultat opérationnel augmente de 6%. Quand vous ajoutez à ça l'impact de ce qu'on appelle la gestion des capitaux, c'est-à-dire principalement les rachats d'actions que nous opérons année après année, et que vous déduisez l'effet de change de moins 1%, parce que, comme vous le savez, le dollar et le yen ont baissé, nous arrivons à un résultat opérationnel par action qui croît de 8%, et donc qui est 8%, c'est tout en haut de la fourchette que nous avions indiquée pour notre plan. Donc une très bonne performance. Un mot sur le résultat net, qui est en légère baisse de 2%, malgré la hausse du résultat opérationnel. C'est dû quasiment exclusivement à un mark-to-market d'actifs en dollars que nous avons dans certains bilans. C'est un mark-to-market. Le jour où le dollar remontera, nous regagnerons cette perte-là. Donc rien d'inquiétant dans le fait que nous soyons dans le négatif pour cette ligne-là. Un mot sur les capitaux propres, page 19. Alors la première chose à dire, c'est que au semestre, il y a toujours un effet de saisonnalité, parce que nous avons la moitié du résultat de l'année, mais nous avons l'intégralité du dividende et de l'impact du rachat d'actions. Donc forcément, toujours, nos capitaux propres à la fin du premier semestre sont tendanciellement un peu plus bas qu'à la fin de l'année. Et ceci est amplifié cette année par le fait que, comme je l'ai dit précédemment, le dollar a baissé, et là aussi ça a eu un impact un peu négatif sur nos fonds propres. Donc quand vous regardez nos ratios, la rentabilité opérationnelle des capitaux propres, le ROE, cette rentabilité sort à un niveau extrêmement élevé, mais flatté par le fait que nos fonds propres, comme je le disais au premier semestre, souffrent toujours de cet effet de saisonnalité. Donc, mais nous avons une très bonne rentabilité. Et de la même façon, le ratio d'endettement ressort à 23,4%, en hausse par rapport à ce qu'il était l'an dernier, pour cette même raison, et aussi parce que nous avons emprunté 2 milliards supplémentaires au premier semestre en dette subordonnée, ceci en anticipation de la gestion à venir de la dette qui bénéficie, comme on dit, de la clause du grand-père sous solvabilité 2. Et donc notre ratio d'endettement devrait rebaisser dans les prochaines périodes. Un dernier mot sur notre solvabilité, qui ressort au niveau extrêmement élevé de 220%. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme dans les périodes précédentes, nous générons 15 points de capital par semestre, donc là aussi tout en haut de la fourchette qu'on avait indiquée. Nous provisionnons aussi en solvabilité les dividendes et rachats d'actions que nous paierons l'an prochain, mais afférents à cette période, ça fait moins 12 points. Vous voyez que, point très important, le change n'a aucun impact, puisque nos capitaux propres ont un peu baissé, mais nos besoins de fonds propres ont également baissé. Et puis, nous gagnons 3 points de différents aspects, les dettes subordonnées dont je viens de parler, qu'on a émises, mais aussi le fait que nous avons finalisé l'acquisition de Nobis en Italie. Donc ça, c'est un point négatif. Et pour la complétude du discours, je spécifierai que l'impact d'AXA IM et du rachat d'actions qui irrelatif ne sont pas compris dans ces chiffres-là. Ils apparaîtront au prochain semestre. Voilà, donc une solvabilité très élevée à 220%, un bilan robuste. Et je rends la parole à Thomas pour la conclusion.
Merci Alban. Vous avez tout vu maintenant. En conclusion, ces résultats semestriels prouvent que nous sommes confiants dans l'exécution de notre plan et dans notre capacité à générer de la croissance organique. Nous réalisons une excellente performance sur ce semestre-là. Cela va nous permettre à l'avenir de continuer à être aux côtés de nos clients et nous allons certainement leur offrir davantage de prévention, de services et de solutions face aux risques qui sont toujours plus nombreux chaque jour. L'acquisition de Prima en Italie confirme notre volonté de nous renforcer sur les marchés stratégiques et sur notre cœur de métier, l'assurance. Cela prouve aussi la pertinence de la stratégie du groupe engagée en 2024 et la réussite de transformation de celui depuis 2016. Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.